Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Le second tour des élections législatives hier en France, élection marquée par une déconvenue pour le camp présidentiel qui obtient une majorité relative, une forte percée de la gauche unie et un score historique du Rassemblement national. Le coup d'envoi samedi prochain des Jeux méditerranéens à Oran, ce sera la 19e édition. Nous y reviendrons avec Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie. Au moins 20 civils et un casque bleu ont été tués dans le nord du Mali. C'est arrivé près de la ville de Gao. Plume.tv, un média en ligne qui veut faire connaître les talents issus de la Méditerranée, va bientôt voir le jour. Une campagne de financement participatif a été lancée. Nous écouterons son cofondateur Rachid Arab. Pas de majorité absolue pour le camp présidentiel après les élections législatives. Le parti présidentiel est majoritaire, mais il lui manque 44 députés pour obtenir une majorité absolue. La coalition de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale obtient 135 sièges, 89 pour le Rassemblement National qui réalise une percée historique et 61 pour les Républicains. L'abstention a atteint 53,77%, en hausse de plus d'un point par rapport au premier tour. Sur les 15 ministres en lice, 3 ont été battus et devront quitter le gouvernement. Amélie de Montchalin à la transition écologique, Brigitte Bourguignon à la santé et Justine Bénin, secrétaire d'État à la mer. La nouvelle Assemblée nationale comptera 215 femmes et 362 hommes. 6000 athlètes ont rendez-vous à Oran le 25 juin prochain. Samedi prochain, ce sera le coup d'envoi de la 19e édition des Jeux méditerranéens 2022, une compétition jusqu'au 6 juillet. La ville algérienne d'Oran deviendra ainsi la capitale du sport méditerranéen. Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie.
C'est un grand défi pour la ville d'Oran. Vous savez que Oran, c'est la deuxième ville du pays. C'est une véritable métropole à l'ouest d'Algérie. Elle a eu la chance de gagner une année, entre guillemets, puisque l'événement devait avoir lieu en 2021. Il a été reporté à cause de la pandémie de Covid-19. Et donc, la ville a profité pour avancer, notamment la construction de certains sites et endroits où les épreuves auront lieu. Donc, notamment le nouveau stade olympique d'Oran, qui peut accueillir jusqu'à 40 000 spectateurs. Il faut noter que les Jeux méditerranéens, les 19e d'Oran, auront lieu donc effectivement du 25 juin au 6 juillet. Il y aura une cérémonie d'ouverture et de clôture qui a été coordonnée par un musicien, par aussi un compositeur, également un maestro, qui s'anime Dada, préparation avec des danseurs et des athlètes. Et en tout, il y aura 6300 athlètes qui viendront de 26 pays et qui vont donc concourir dans 244 épreuves, distribué sur 24 disciplines. Donc c'est un grand défi pour la ville, pour les autorités locales. Le président Abdelmadjid Tebboune a réuni à plusieurs fois le comité d'organisation qui est présidé par Aziz Delouef, qui est l'ancien entraîneur de l'équipe nationale de handball et qui a décroché donc avec cette équipe plusieurs titres africains. Il a été aussi ancien ministre. Et donc c'est lui-même qui coordonne avec une équipe sur place à Oran les préparatifs de ces Jeux méditerranéens.
Et au cœur de cet événement, il y a aussi la protection de l'environnement.
Oui, absolument. D'ailleurs, il y a beaucoup d'activités annexes à côté des Jeux, parce que le comité d'organisation a profité donc de l'intérêt suscité, notamment dans les médias, pour ces Jeux et pour cet événement sportif, pour organiser des activités citoyennes, des activités ludiques, des activités destinées aux enfants. Et il y aura effectivement des activités liées à l'environnement avec les associations locales, avec plusieurs organismes notamment qui ont un rapport avec l'environnement, avec la protection de l'environnement, avec l'écologie, nettoyage du littoral oranais, nettoyage des forêts, embellissement des établissements publics. C'est un événement effectivement très suivi sur les réseaux sociaux, puisque les Jeux méditerranéens, ce n'est pas uniquement le sport, parce que d'ailleurs il y a aussi beaucoup d'activités culturelles.
Et cela a un impact bien entendu sur l'attractivité de cette ville.
Oui, parce que l'un des objectifs tracés pour les préparatifs de ces Jeux et la tenue de ces Jeux, c'est justement l'aspect touristique, puisque la ville d'Oran est une ville touristique par excellence. Il y a un immense littoral, il y a aussi l'église de Santa Cruz qui est donc sur les hauteurs d'Oran, dans le mont Mirjajo, il y a le port espagnol, il y a la corrida d'Oran qui est la seule arène qui existe en région africaine, en Afrique. Il y a le vieux quartier comme de Sidi Houari. Oran, c'est aussi la ville du Rail, c'est la ville de Cheb Khaled, c'est la ville de Cheb Hasni, de Cheb Nasrou, de Zawaniya, Fadela et d'autres. C'est une ville donc, qui a connu aussi beaucoup de de présence espagnole par le passé. Et il y a beaucoup de ruines, il y a beaucoup de monuments, il y a beaucoup d'espaces culturels et naturels à visiter. Donc cet aspect est mis en valeur par le comité d'organisation pour justement que les athlètes qui viendront ou les journalistes, la forte délégation de journalistes qui viendront pourront faire de la promotion à cette ville. D'ailleurs, des contrats ont été signés avec des chaînes européennes pour faire de la promotion de la ville d'Oran comme une destination, l'une des destinations touristiques en Algérie, puisqu'il y a beaucoup d'endroits à visiter en Algérie en dehors d'Oran.
Et vous évoquez l'Espagne, la côte oranaise est justement connue notamment pour la plage des Andalouses.
Oui, d'ailleurs, il y a un complexe touristique dans cette zone qui a une trentaine de kilomètres à l'ouest d'Oran, donc en allant vers la route d'Aïn Témouchent et de Tlemcen, qui sont aussi deux wilayas côtières de la côte ouest algérienne. Il y a un complexe qui a été construit en partie par Pouillon, qui est l'architecte français qui est connu. Et d'ailleurs, dans cette zone, il y aura la base nautique, une base nautique qui va abriter les, par exemple, les compétitions de voile. Et c'est un complexe à visiter, tout compte tenu de son architecture, de son emplacement. Il est situé entre une forêt et une plage. Il y a aussi la région de Aïn Turk. Qui est une très belle région. Il y a la corniche oranaise, célèbre et chantée d'ailleurs par les chanteurs du rail. Il y a aussi, Oran est aussi connu par ses cabarets, par ses boîtes de nuit, par ses discothèques. D'ailleurs, c'est la seule ville d'Algérie qui en a un nombre assez élevé, très fréquenté d'ailleurs en période estivale.
Ces Jeux méditerranéens en Algérie, c'est une première depuis 1975.
Oui, absolument. Tout le monde se rappelle de ces Jeux de 1975, parce qu'il y avait beaucoup d'images qui sont maintenant gardé dans les archives, et l'Algérie a voulu à plusieurs reprises réorganiser ces Jeux méditerranéens, évidemment pas Alger, puisque Alger est une ville méditerranéenne, c'est vrai, mais il y a beaucoup d'autres villes dans le pays, dont Oran, par exemple, à l'ouest, ou Skikda, Annaba, Djigel, Bijaya, à l'est d'Alger. Et cette manière d'organiser l'événement, c'est aussi un défi pour les autorités algérienne, un défi aussi pour le ministère de la Jeunesse et des Sports, aussi pour les autorités locales, puisqu'il y a eu beaucoup d'infrastructures construites durant une période très courte, notamment le stade olympique d'Oran, notamment le complexe sportif de Birgit, de Sidi El-Bachir, etc. Ça permet à la ville aussi d'Oran d'avoir des infrastructures pour d'autres événements sportifs, puisque l'Algérie voudrait organiser des compétitions africaines, et pourquoi pas se préparer pour de grands événements internationaux dans le futur, comme les Jeux Olympiques ou comme la Coupe du Monde de football.
Et il y a aussi un enjeu politique à travers l'organisation de ces Jeux.
Oui, c'est un enjeu politique, puisque l'Algérie a toujours plaidé pour un dialogue méditerranéen, elle a toujours été une partie prenante du processus de Barcelone, qui est un processus européen, euro-méditerranéen de dialogue et de concertation. L'Algérie a été aussi partie prenante du dialogue méditerranéen à travers l'OTAN, et aussi l'Algérie voudrait renforcer ses relations avec tout le voisinage méditerranéen, au-delà des crises diplomatiques qui existent actuellement entre le Maroc et l'Algérie, et entre l'Espagne et l'Algérie. Évidemment, l'Espagne et le Maroc seront présents à ces Jeux à travers leurs athlètes, mais au-delà de ça, il s'agit aussi de renforcer les liens entre les deux rives de la Méditerranée. L'Algérie maintenant est en train de renforcer ses relations avec des pays comme l'Italie, qui est un grand partenaire commercial de l'Algérie, mais également avec un autre grand pays méditerranéen comme la Turquie et également l'Égypte, parce qu'on oublie que l'Égypte est également un pays méditerranéen.
Et la coopération méditerranéenne passe donc aussi par le sport.
Par le sport, qui est aussi un moyen de soft power également. Vous le savez, un moyen de cette puissance qui pourrait être véhiculée par le sport. Le sport aussi rapproche les peuples, rapproche la jeunesse, fait oublier les différences, renforce l'idée du vivre ensemble, et la Méditerranée a plus que besoin aujourd'hui de se vivre ensemble, de la tolérance, de dialogue de culture, parce que la Méditerranée a cette chance de rassembler beaucoup, beaucoup de cultures, que ce soit du côté sud, côte africaine, ou côté est, Moyen-Orient, ou côté nord, Europe. Et donc les Jeux méditerranéens avec le rassemblement des jeunes, parce que j'avais souligné qu'il y avait des activités culturelles, il y aura par exemple les premières journées du théâtre méditerranéen, il y aura des troupes du théâtre qui viendront un peu partout de la Méditerranée, il y aura un festival de théâtre de rue, il y aura le festival de la chanson oranaise où il y aura aussi des invités méditerranéens. Donc la culture et le sport, c'est les meilleurs moyens pour renforcer les liens entre les peuples et les civilisations.
Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie. Les pays occidentaux doivent évacuer de toute urgence les migrants les plus vulnérables bloqués en Libye, un appel de Médecins sans frontières. L'ONG publie un rapport dans lequel elle propose notamment l'ouverture de nouveaux corridors humanitaires. Elle estime que les quelques voies légales de sortie mises en place par l'Organisation internationale des migrations et le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU sont trop restrictives et lentes. MSF insiste par ailleurs pour que les États de l'Union européenne cessent leur soutien politique ou financier au système de retour forcé vers la Libye lorsque des candidats à l'exil sont interceptés en mer. Au moins 20 civils et un casque bleu ont été tués dans le nord du Mali. C'est arrivé près de la ville de Gao. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné fermement cette attaque. Il rappelle que les attaques visant les casques bleus peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international et que leurs auteurs sont passibles de poursuites. Cela arrive dans un contexte tendu de négociations sur le renouvellement du mandat de la MINUSMA, la mission de maintien de la paix de l'ONU. L'autorité palestinienne demande à Israël de lui remettre l'arme qui a tué le mois dernier en Cisjordanie occupée la journaliste vedette de la chaîne Al Jazeera, Shirin Abu Akleh. Une demande formulée à l'occasion d'une cérémonie à sa mémoire. Des responsables palestiniens ont multiplié les hommages hier pour marquer le 40e jour de deuil depuis le décès le 11 mai dernier de la journaliste tuée par balle dans le camp palestinien de Jenin, bastion des factions armées palestiniennes où des soldats israéliens menaient ce matin-là une opération armée. Un nouveau média va bientôt voir le jour, Plume, le premier média qui donne à voir les influences d'aujourd'hui et de demain venues de la Méditerranée. Un média 100% vidéo, cofondé par le journaliste Rachid Arab, ancien membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. À quelques jours de son lancement officiel, Plume lance une campagne de financement participatif, entretien avec Rachid Arab.
Plume, c'est la plateforme Union Média Méditerranée. C'est une plateforme sur laquelle on a travaillé depuis 2 ans avec mes deux partenaires, Pascal Joseph et Guillaume Pister, pour créer le premier média consacré entièrement à tous les créateurs de Méditerranée, quel que soit l'endroit de Méditerranée où ils sont, à tous ceux qui font des initiatives, à tous ceux qui ont des idées nouvelles en matière de création, de faire découvrir ces idées nouvelles, de les mettre en visibilité, de faire participer aussi un certain nombre de grands noms qui ont déjà réussi cette visibilité. Je pense aux chanteurs, mais je pense aussi aux gens qui sont dans le cinéma, aux gens qui sont dans le monde du sport, dans le monde de la cuisine, tous ces artistes à tous les sens du terme qui représentent la Méditerranée dans ce qu'elle a de meilleur et de plus apaisant. Voilà ce que c'est Plume, c'est en ligne, ça sera lancé très prochainement et c'est destiné principalement, mais pas seulement, aux millennials de toute la région de la Méditerranée. C'est presque 70 millions de personnes.
Et l'idée, c'est véritablement de rassembler les jeunes autour de la Méditerranée, le sud et le nord de la Méditerranée.
C'est vraiment un média que j'appelle un média d'apaisement. Dans le climat dans lequel on vit en France notamment, qui est un climat où on se jette nos identités à la figure, où on se rejette les uns les autres. Moi, je cherche l'apaisement, le rapprochement. Et il me semble que c'est un travail que les générations digital ont déjà fait. Ce qui me frappe quand je regarde ce qui se passe au sud de la Méditerranée, c'est à quel point les jeunesses ont déjà une connectivité extraordinaire à tout ce qui est digital, à tout ce qui est numérique, à tout ce qui est usage des réseaux sociaux, et ils en font un très bon usage. Et bien Plume, c'est tout simplement de pousser ça encore plus, de telle façon que ça se voit non seulement en Méditerranée, mais bien au-delà. L'objectif, c'est de montrer que la Méditerranée est redevenue le lieu de création des influences.
Et donc, il y aura des artistes du Maroc, d'Algérie, de Tunisie et de France. Dans quelle langue s'exprimeront-ils ?
Le principe de Plume est très simple. Les gens s'expriment dans leur langue maternelle et nous traduisons. La technique permet aujourd'hui de faire des traductions quasi simultanées sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est simplement de la mécanique. Le principe de base, c'est qu'effectivement, chacun parle dans sa langue.
Quelle est la ligne éditoriale de Plume ? C'est la culture, ça peut être aussi la situation politique ?
La ligne éditoriale de Plume, c'est clairement l'entertainment au sens anglo-saxon du terme là pour l'instant. C'est-à-dire toutes les formes de culture, ça va de la musique jusqu'au sport en passant par l'entreprise. Mais ce n'est surtout pas une chaîne d'information. Je ne veux pas, j'ai suffisamment fait d'information dans ma carrière, je ne veux pas m'en lancer dans ça, tout simplement parce que c'est un business model pour parler comme les chefs d'entreprise qui n'apportent pas grand-chose. Et puis, je suis convaincu, moi, et c'est valable des deux côtés de la Méditerranée, quand je regarde la télévision aujourd'hui, à laquelle j'ai beaucoup participé pendant ma carrière, je vois que ces médias-là ne sont venus que des médias de combat et non pas de débat et d'échange. Donc vraiment, notre ligne, c'est l'éditorial, c'est partager ce qu'on a en commun essayer de s'apaiser, essayer de se rapprocher et non pas essayer de se diviser. Pour ça, il y a des tas de gens qui œuvrent en coulisses ou sur le devant de la scène, ils n'ont pas besoin de moi.
Alors, il y a déjà eu une phase de test pour Plume. Il y a toute une équipe qui est déjà prête à alimenter cette plateforme.
Il y a toute une équipe qui travaille avec nous depuis maintenant 2 ans. Et il y a aussi un certain nombre de formats qui ont déjà été testés, qui sont prêts à démarrer dès que notre opération de levée de fonds aura réussi. Et à côté de ça, il y a eu effectivement le succès énorme qu'on a eu en mai 2020 pendant le premier confinement, où on s'était retrouvés les uns et les autres séparés physiquement, et pour certains séparés par la Méditerranée. Et à cette époque-là, on avait lancé, mais un peu comme un jeu entre nous, un certain nombre de vidéos musicales notamment, et on avait été nous-mêmes immédiatement dépassés par le succès de ces vidéos musicales. Ça s'était terminé par un hommage à Edir au moment de son décès, qui nous a valu plusieurs millions de vues. C'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Donc depuis 2 ans, l'équipe, parce que nous sommes pour l'instant tous des bénévoles, l'équipe a continué de faire son travail habituel, mais tout le monde y a apporté sa petite patte. Et donc aujourd'hui, il y a des formats qui sont prévus, il y a des événements sur lesquels on travaille, il y a des personnalités de différents secteurs qui sont nos parrains et nos marraines. On est prêt à démarrer dès qu'on aura recueilli l'argent.
Alors justement, l'argent, parlons-en. Vous avez lancé une campagne de crowdfunding. Aujourd'hui, tout le monde peut vous aider à financer ce projet.
C'est une question essentielle. Le financement du projet, il va se faire principalement par une levée de fonds que nous organisons avec des investisseurs professionnels, des entreprises privées des deux côtés de la Méditerranée. Et à côté de ça, parce qu'on voulait pouvoir, dès l'été prochain, commencer à mettre en route un certain nombre de productions, vous le savez bien, Radio Orient, il faut un peu d'argent pour produire. Donc on a lancé cette campagne de crowdfunding qui a un double intérêt. Tout d'abord, elle resserre la communauté de Plume qui existait, parce que quand on s'était lancé, on a très rapidement eu plusieurs milliers d'abonnés qui continuent de nous suivre, même si on produit moins. Et c'est une façon de les fédérer, de leur rappeler qu'on va se lancer et de les faire participer d'une façon collaborative à ça. Donc la campagne de crowdfunding, c'est très simple. C'est en fait un appel à des dons, et c'est pas des dons gratuits. Ceux qui donnent, et ils sont déjà plus d'une centaine à nous avoir aidés là-dessus. On a recueilli déjà à peu près la moitié de la somme qu'on souhaitait récolter. Et ceux qui nous aident ont droit à des contreparties. Ce sont souvent des œuvres d'artistes des deux côtés de la Méditerranée auxquelles ils ont droit en fonction de leurs dons. Ce sont des participations à des spectacles. C'est par exemple des dîners. J'en profite parce que ça, c'est la dernière contrepartie. Elle est toute récente. Elle date de ce week-end, donc je la partage en exclusivité avec Radio Orient. C'est la possibilité, par exemple, d'aller découvrir, en contribuant à la campagne, d'aller découvrir un restaurant formidable qui s'appelle Mamanissa, qui est à Paris, qui est spécialisé dans toute la façon de revisiter la cuisine algérienne. Et donc voilà, en allant sur la page de Plume TV, vous allez voir, il y a une campagne de crowdfunding, on clique, on vous propose de faire un don, et en fonction de ce don-là, vous avez droit à un certain nombre de contreparties. C'est très simple, et en plus, c'est encore plus simple parce que le moindre don de 10 euros jusqu'à 1000 euros, tout est formidable et on a besoin de tout.
Rachid Arab, cofondateur de Plume TV, vous pouvez trouver le lien vers la campagne de crowdfunding sur radioorient.com. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le Flash, 17h30 pour le journal. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.